Il est devenu un sujet d'actualité, une nécessité, un élément incontournable. Vous avez sûrement entendu parler des ODD, Objectifs de Développement Durable. D'ailleurs, 193 pays se sont fixés d'atteindre 17 objectifs d'ici 2030. Sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc est sur cette dynamique à la fois environnementale et économique. Notion qui définit le besoin de transition et de changement dont a besoin notre planète et ses habitants pour vivre dans un monde plus équitable, en bonne santé et en respectant l'environnement. Quel impact géopolitique, stratégique, économique et même social le développement durable a sur notre quotidien et sur l'évolution du monde.
Mehdi 1, Ababacar Tonkara, le podcast de la durabilité.
Le continent africain se trouve aujourd'hui confronté à un défi majeur, celui du stress hydrique. Cette problématique complexe et multidimensionnelle résulte de divers facteurs, notamment le changement climatique, la croissance démographique rapide et la surexploitation des ressources en eau. Pour le cas du Maroc, la crise hydrique est une réelle problématique. La variabilité climatique, exacerbée par le changement climatique mondial, se manifeste par des périodes de sécheresse de plus en plus fréquentes et des précipitations irrégulières. Ces conditions météorologiques adverses ont des répercussions directes sur les ressources en eau, contribuant ainsi bien évidemment à la diminution des nappes phréatiques et la faiblesse du taux de remplissage des barrages. Ainsi, la quantité moyenne d'eau par habitant a chuté de manière drastique, passant de 2560 mètres cubes dans les années 60 à une estimation actuelle de 600 mètres cubes. Les prévisions pour 2030 indiquent une réduction supplémentaire à 560 mètres cubes en raison de la croissance démographique continue. Mais pour mieux comprendre l'enjeu, faudrait-il d'abord comprendre qu'est-ce que c'est que le stress hydrique et les impacts socio-économiques. Pour en parler, mesdames et messieurs, nous sommes avec Hassan Lamrani, spécialiste en ressources en eau et irrigation, membre fondateur de Think Tank Think Water, co-auteur du livre blanc sur les ressources en eau. Bonjour à vous.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Un plaisir. Donc tout d'abord, Monsieur Lamrani, c'est quoi le stress hydrique?
La définition est vraiment très simple, que pour n'importe quelle entité, pour un être humain, pour une plante ou pour un pays, c'est quand les disponibilités en eau n'arrivent pas à satisfaire les besoins. Donc quand les disponibilités en eau sont inférieures aux besoins, il y a un déficit et ça, on est en stress hydrique, que ce soit une plante ou autre chose. Pour un pays, il y a eu des travaux de plusieurs chercheurs, notamment une Suédoise, Falkenmark, qui a défini des indices de stress hydrique, donc des niveaux, et elle a défini le niveau de inférieur à 1700 m3 par hectare et par habitant et par an, on est en stress hydrique. En dessous de 1000 m3, on est en pénurie. Et en dessous de 500 m3 par habitant et par an, on est en pénurie absolue. Mmh. Et voilà pour la définition du stress hydrique tel qu'elle est définie par les experts hydrologues.
Et donc, toujours pour qu'on ait sur ces dynamiques, donc, par rapport aux différents niveaux et aux différentes appréciations plutôt que vous venez de citer, le Maroc en est où?
Alors, ça dépend bien sûr de la période de la disponibilité. On la calcule sur une moyenne. Ça dépend de la série des années qu'on prend en compte. Alors, si on prend la série, à mon avis, la plus représentative, qui est celle après les années 80, parce que avant les années 80 et après les années 80, il y a eu une chute importante des disponibilités en eau. Si on prend donc cette moyenne entre 1980 et 2021, les potentialités sont estimées par notre ministère de l'eau à 14,5 milliards de mètres cubes. Si on les divise par les 37 millions d'habitants actuellement au Maroc, on a un ratio, donc un index de 400 mètres cubes par habitant et par an. Donc on est inférieur aux 500 de la pénurie absolue.
Et quelles sont aujourd'hui les causes de ce stress hydrique, déjà?
Vous l'avez déjà dit dans votre introduction, il y a la raréfaction des ressources en eau, enfin, donc suite au changement climatique qui est déjà observé au Maroc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une baisse continue des précipitations qui a une implication directe sur les écoulements d'eau dans les rivières et dans les nappes et l'alimentation des nappes. Je vous donne un exemple. Entre 1945 et 80, les disponibilités étaient estimées à 22 milliards. Et si on prend les 40 années après les années 80, c'est-à-dire entre 81 et 2021, ces disponibilités ne sont plus que de 14,5 milliards, soit un décrochement, une baisse de 33% entre ces deux périodes. Entre les 40 années d'avant 80 et les 40 années d'après 80. Alors, si on prend les dernières années, 2015-2021, les disponibilités estimées par, par les instances officielles sont à peine de 10 milliards. Ça veut dire que si on les compare par rapport aux disponibilités d'avant les années 80, on est avec une baisse de 50%, de plus de 50%. Le premier facteur de stress hydrique, mais il y a aussi l'autre côté de l'équation, c'est l'augmentation de la demande. Enfin, donc, vous avez aussi parlé de ça. Donc il y a une augmentation de la population. Vous avez parlé de 1960 avec 2650 mètres cubes par habitant disponible, mais on était à peine 11,5 millions d'habitants. Maintenant, on est à 37 millions d'habitants et donc il y a une augmentation importante, ce qui diminue la disponibilité par tête d'habitant. Et aussi le développement des activités économiques, notamment agricoles, qui influent d'une manière très très importante enfin, sur l'index de stress hydrique.
Et le gouvernement marocain, donc, dans ses dynamiques, a pris des précautions et aussi des mesures pour le cas déjà de ce Maroc-là dont nous sommes en train de parler, le Royaume du Maroc. Quels sont aujourd'hui les enjeux des ressources en eau ?
Personnellement, je pense que pour l'alimentation d'eau potable enfin de la population, la crise est beaucoup plus conjoncturelle parce que quand même la demande globale n'est pas aussi importante que celle de l'agriculture. Et les dispositions qui sont prises pour l'alimentation d'eau potable font que, je pense, Inch'Allah, on va dépasser cette crise et donc c'est une crise qui peut être conjoncturelle pour le potable. Par contre, pour l'irrigation, qui est bon, le principal consommateur d'eau, comme dans tous les pays d'ailleurs, la crise est structurelle. Donc les besoins actuels, la demande agricole ne pourra jamais être satisfaite avec les disponibilités actuelles. Obligatoirement, il faut qu'il y ait une action sur la demande pour qu'on puisse l'adapter aux ressources disponibles. Ceci ne veut pas dire que pour l'eau potable, il ne faut pas agir sur la demande aussi. Il faut effectivement pousser à l'économie d'eau, mais au niveau urbain et au niveau des centres ruraux. Mais le plus grand enjeu enfin, qui vraiment pose problème actuellement, enfin, c'est l'impact sur l'agriculture.
Et également de manière concrète, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, quels sont aujourd'hui les problèmes que rencontre le Maroc dans le domaine de l'eau ?
Bon, d'abord, il y a des problèmes de gouvernance enfin, qu'on a identifiés dans notre livre long. Et la principale contrainte au niveau de la gouvernance, c'est le manque de cohérence des stratégies sectorielles. Alors là, il y a effectivement, notamment entre celle de l'agriculture et du ministère de l'eau, de l'industrie et celle du ministère de l'eau, du tourisme et du ministère de l'eau, nous pensons que toute stratégie sectorielle devrait prendre en considération l'impact du changement climatique et pour pouvoir définir quels sont les programmes d'investissement à faire. Donc, premier problème, c'est un problème donc, lié à la cohérence des stratégies sectorielles. Deuxième problème, qui est lié au premier, c'est au niveau de l'agriculture, il y a un problème important, c'est qu'il y a eu un développement anarchique et non maîtrisé de l'irrigation privée. L'irrigation en dehors des périmètres aménagés par l'État, bien que la loi prévoit des autorisations, des restrictions au niveau du creusement des puits et des forages, l'application de la loi n'a pas eu lieu et donc il y a eu un développement non maîtrisé et même un peu encouragé par un certain nombre de subventions au niveau des plantations, au niveau des goutte-à-goutte, etc., qui ont induit une augmentation importante de la superficie irriguée à partir des eaux souterraines notamment et aussi à partir des rivières. Et actuellement, effectivement, on est arrivé à une situation de surexploitation catastrophique des eaux souterraines.
Vous l'avez dit, hein, vous êtes également co-auteur du livre blanc plutôt sur les ressources en eau. Aujourd'hui, par rapport à ce livre qui parle de cela, parle également des problèmes et des problématiques que rencontre le Maroc, notamment par rapport à ce stress hydrique. Mais quels sont également, selon vous, comment peut-on lutter contre la pénurie d'eau au Maroc ?
Alors, qui dit pénurie dit baisse de l'offre et augmentation de la demande. Donc, logiquement, la façon de lutter, c'est d'essayer d'augmenter l'offre tant que possible et de diminuer la demande tant que possible. Alors, en ce qui concerne l'offre, bon, l'État a pris un certain nombre de mesures, enfin, depuis longtemps. Et dans le programme 2027 qui est en cours de mise en œuvre actuellement, un certain nombre de dispositions sont prises, notamment la poursuite de la construction des barrages, de dessalement et la réutilisation des eaux usées et l'interconnexion des bassins. Alors, pour les barrages, au niveau du livre blanc, nous pensons qu'on atteint les limites. Parce que surtout dans les bassins du sud et du centre, où l'eau ne coule plus vers la mer, il n'y a plus rien à mobiliser. Donc, construire de nouveaux barrages ne veut pas dire qu'on aura plus d'eau. Donc, nous, justement, dans les livres blancs, nous posons la question sur la pertinence de la poursuite de la construction des barrages au niveau de ces bassins, où l'eau ne va presque plus à la mer. Alors, pour les interconnexions de bassins, effectivement, c'est une bonne chose, parce que ça permet une flexibilité dans la gestion des barrages. Bon, bien sûr, il faut voir la question du coût et qui va le payer. Bon, ça, c'est un point important. Pour le dessalement, effectivement, là aussi, c'est une mesure qui a été mise sur la table depuis, je crois, 2006, mais qui a un peu tardé à être mise en œuvre. Mais actuellement, il y a tout un programme que nous approuvons, qui est bon, mais nous pensons qu'il est beaucoup plus pertinent pour l'alimentation en eau potable que pour l'agriculture, parce que le coût est très élevé. Et même avec les énergies renouvelables, enfin, le coût reste très élevé. Et on peut se poser la question, qui va payer le coût? Est-ce que c'est l'usager direct? Est-ce que c'est le contribuable à travers des subventions? Pour l'eau potable, on peut concevoir qu'il y ait des subventions comme solidarité nationale, mais pour l'agriculture à haute valeur ajoutée, qu'on pourrait faire avec l'eau dessalée, on peut se poser la question, est-ce que c'est normal que le contribuable participe au financement de tels projets?
Et aussi, on en a parlé tout à l'heure concernant les prévisions d'ici 2030, où on indique une réduction supplémentaire de 560 mètres cubes, en raison bien entendu de la croissance démographique continue. Aujourd'hui, quelles peuvent être donc les conséquences à court terme pour le Royaume du Maroc, notamment sur le plan agricole, entre autres?
C'est un impact direct. Je crois qu'il y a même il y a le ministère des Finances qui a sorti un document sur les impacts socio-économiques du stress hydrique, qui est très intéressant. Beaucoup de chiffres, et ils ont fait des prévisions sur l'impact sur le PIB. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est quand même des chiffres très, très significatifs. Mais d'une manière un peu plus qualitative, un des problèmes que nous sommes en train d'analyser au sein de notre think tank, c'est l'impact sur les grands périmètres aménagés par l'État, qui font quand même 700 000 hectares, qui ont été aménagés à grands frais et qui viennent d'être modernisés, dont une grande partie vient d'être modernisée aussi à grands frais, qui sont gérés par d'importants organismes qui sont les offices régionaux de mise en valeur agricole et qui actuellement sont presque à l'arrêt. Donc là, il y a vraiment un... Alors, quel devenir à cette agriculture, à cette partie de l'agriculture marocaine qui assurait la souveraineté alimentaire du pays et participait un petit peu à l'exportation? Quel avenir pour les agriculteurs qui vivent dans ces périmètres? Actuellement, la plupart d'entre eux se sont retournés vers les eaux souterraines, mais ce n'est pas une solution. Au contraire, on va aggraver le problème en se retournant vers les eaux souterraines. Donc là, il y a un problème vraiment important à régler. Dans notre groupe, on va dédier une série de webinaires à cette question.
Beaucoup de problèmes à régler, beaucoup de problèmes également à débattre dans votre émission sur la durabilité. Merci encore à Hassan Lamrani. Je rappelle donc que vous êtes spécialiste en ressources en eau et irrigation, membre fondateur du Think Tank Think Water et co-auteur du livre blanc sur les ressources en eau.
C'est moi qui vous remercie.
Merci encore à vous, amis auditeurs et également amis de l'émission Durabilité. Rendez-vous est pris pour le prochain numéro, toujours sur le développement durable et la durabilité.